Il est très exactement 10h du soir, c'est l'heure du journal du soir, donc de Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Louise Touré, bonsoir à tous. C'était sans doute le plus célèbre râleur du cinéma français. Jean-Pierre Bacri est mort aujourd'hui, victime du cancer. Comédien, scénariste, Jean-Pierre Bacri aura signé avec Agnès Jaoui quelques films emblématiques de la comédie française. Nous y reviendrons largement dans un instant. Le projet de loi visant à conforter les principes républicains arrive à l'Assemblée. Le texte qui s'attaque à l'islam radical fait déjà polémique. Nous en parlerons avec notre invité, le député LREM Sacha Houlier, rapporteur du projet de loi. En Russie, la justice de Vladimir Poutine envoie Alexei Navalny pour 30 jours en prison. Le principal opposant russe a été arrêté hier soir à sa descente d'avion. Il appelle à manifester samedi contre le maître du Kremlin. Il avait cette voix inimitable du râleur ontologique, ce bafouillement unique qui traduisait un prodigieux agacement dans ses films. Jean-Pierre Bacri est mort aujourd'hui, emporté par le cancer à l'âge de 69 ans. Comédien, scénariste, dramaturge, Jean-Pierre Bacri aura marqué de son empreinte le cinéma français des 30 dernières années avec quelques comédies mythiques, des films qu'il avait écrits avec sa complice de toujours, Agnès Jaoui. Petit aperçu d'une riche carrière avec vous, Anne Lamotte.
Jean-Pierre Bacri, c'est d'abord l'écriture de pièces et de scénarios dans les années 90, décennie lors de laquelle il explose avec sa complice de toujours Agnès Jaoui. On se souvient de Cuisine et dépendance, adapté à l'écran, de leur scénario de Smoking, No Smoking et de On connaît la chanson d'Alain Resnais. Citons aussi Un air de famille de Cédric Clapiche ou Le goût des autres d'Agnès Jaoui au tout début des années 2000. Des comédies à la fois hilarantes, grinçantes, très tendres aussi, qui sont d'énormes succès. Bacri, c'est 4 Césars du meilleur scénario et puis un César du meilleur acteur dans un second rôle. On est en 98 dans On connaît la chanson d'Alain Resnais. À l'écran, c'est cet éternel, cet inimitable râleur qui ne sourit pas, qui ne sourit jamais.
Quoi, c'est beau l'amour.
Bah, la façon dont tu parles de ta femme, c'est beau. On sent toute la tendresse, toute la compréhension.
Et qu'est-ce qu'il connaît, toi? Tu vis avec quelqu'un?
Qui en fait peu, et pourtant qui pensait, ans, le modeste, en faire déjà trop, il le disait sur notre antenne dans le tête-à-tête de Frédéric Taddeï en 2012.
En tant qu'acteur, j'essaie de soustraire un maximum. Et certains acteurs dont j'adore tellement la sobriété, je me dis, il faut arriver là, quoi. Il faut arriver à cette absence de volonté, cette absence d'ostentation. Et puis c'est tellement juste ce qu'ils font. Souvent, je regarde un film avec Agnès ou avec un ami, je dis, regarde, il fait rien, ce mec. Il fait rien, c'est formidable. Regarde ça, il a rien fait, rien.
La dernière fois qu'on a vu Jean-Pierre Bacri à l'écran, c'était en 2018, notamment pour Place Publique, réalisé par celle qui l'aura accompagné toute sa vie, Agnès Jaoui. Il était là aussi, comme à ses débuts, à l'écriture de cette dernière comédie décapante.
Que je me sens comme une vieille merde, qu'à chaque fois que je me regarde dans la glace, j'ai envie de pleurer.
Mais ça va, m'agresse pas.
Mais c'est toi qui m'agresses. T'arrives, tu m'agresses.
Voilà, Place Publique, l'histoire de Castro, un animateur télé sur le déclin après avoir connu la gloire de l'audimat. Jean-Pierre Bacri était venu parler de ce rôle dans Les Matins du Samedi en 2018 au micro de Caroline Brouet. L'occasion pour lui d'évoquer son travail d'écriture avec Agnès Jaoui.
On adore ça, les dialogues. Les dialogues, c'est d'être, quand on travaille, on met un an et demi ou deux ans pour écrire un film. On passe énormément de temps sur la structure, sur les personnages, sur ce qu'on appelle les 1, 2, 3 pour chaque personnage, c'est-à-dire d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut et où est-ce qu'il arrive. Et puis comme on écrit toujours beaucoup de personnages, parce qu'on a cet esprit de troupe qu'on aime depuis toujours, une espèce de conviction plutôt politique de dire on ne peut pas écrire deux personnages à qui il arrive des malheurs et puis des gens autour d'eux sans consistance qui viennent leur servir la soupe. C'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter, c'est peut-être notre habitude du théâtre, c'est pour ça que Cuisine des dépendances, on a notre famille. Tous les rôles étaient égaux parce que, je vous dis, c'est une conviction politique, on se dit, si on doit s'amuser, prendre du plaisir, autant que tous prennent du plaisir, qu'il n'y ait pas de frustration. Pas de plus petit, pas de plus grand, pas de dominé, pas de dominant.
Jean-Pierre Bacri dans Les Matins du Samedi de Caroline Brouet le 14 avril 2018. Émission à retrouver sur franceculture.fr avec d'autres entretiens que Jean-Pierre Bacri avait accordés à France Culture. L'Assemblée a commencé à examiner en commission le projet de loi contre le séparatisme, un texte destiné à lutter contre l'islamisme radical sans le nommer, puisqu'il s'agit officiellement de conforter les principes de la République. D'ores et déjà, plusieurs amendements ont été rejetés, dont celui qui visait à interdire le port du voile aux mineurs. Maxence Lambrecq.
Oui, le financement des lieux de culte et des associations, la scolarisation obligatoire, la lutte contre la haine en ligne, la neutralité religieuse, mais en aucun cas le port du voile. Question trop sensible, ça serait sinon perçu comme un texte anti-musulman, s'inquiète un conseiller ministériel. Des piliers de la majorité, Aurore Berger, Jean-Baptiste Moreau, ont proposé d'interdire le port du voile des jeunes filles. Amendement jugé ce week-end irrecevable, hors sujet aux yeux du gouvernement. La droite était prête à le soutenir. Éric Ciotti et Damien Abad s'en émeuvent.
Comment ouvrir, aborder un débat sur la laïcité, sur le principe des valeurs républicaines, en considérant que la question du voile n'est pas au cœur de cette problématique?
Nous pensons que l'interdiction du voile pour les fillettes est absolument indispensable, nécessaire, qu'en tout cas on devait avoir ce débat-là, qu'on aurait pu avoir un vote avec un scrutin public et que chacun puisse s'exprimer librement. Cet amendement, nous le redéposerons d'ailleurs en séance publique.
Les députés LR vont donc tenter d'imposer ce débat pour se distinguer sur un texte qu'ils ne peuvent globalement que soutenir et pour essayer de fracturer la majorité très divisée sur cette question du voile, alors qu'un consensus a été trouvé sur les principaux chapitres de ce projet de loi.
Maxence Lambrec, merci. Invité de ce journal, Sacha Houlier, député LREM et rapporteur du projet de loi confortant les principes républicains. Bonsoir.
Bonsoir.
Sacha Houlier, pourquoi refuser le débat sur le port du voile des fillettes dans le cadre de l'examen de ce texte?
D'abord, ce n'est pas un refus d'un débat, c'est que l'amendement il est sans lien direct avec le texte. Donc si nous l'examinons et que nous l'adoptons, je suis contre cet amendement, mais si nous l'avions adopté, ce serait le Conseil constitutionnel qui l'aurait censuré comme cavalier législatif. Donc ça aurait posé un vrai problème démocratique de mon point de vue. Mais non, sur le fond, le meilleur moyen que les jeunes filles ne portent pas le voile, c'est encore de les envoyer à l'école. Puisque à l'école, la loi de 2004 garantit la neutralité du service public et l'absence de port de signes distinctifs. Donc le sujet est réglé, c'est même un non-sujet sur cette question, et je pense que cet amendement n'avait pas sa place dans ce texte parce que, encore une fois, ça n'en est pas l'objet.
Mais pourtant,
pour ce qui concerne les amendements qui ont été déposés, il y avait 1800 amendements au départ, 15% d'entre eux, de tous les groupes, du groupe La France Insoumise, du groupe Les Républicains, et y compris du groupe La République En Marche, ont été jugés irrecevables par le président de la Commission lorsqu'ils étaient sans rapport avec le texte. Et donc, il en reste aujourd'hui 1500. Vous voyez qu'il y a matière à travailler pour la commission qui se réunira toute cette semaine.
Mais pourtant, cet amendement visant à interdire le port du voile pour les mineurs venait de votre propre camp. Aurore Berger et Jean-Baptiste Moreau sont des piliers de votre majorité.
À la réserve près que le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur se sont tous dit hostiles à cette disposition. Et que par ailleurs, la quasi-totalité du groupe s'y est déclarée défavorable également, considérant que ça n'est pas le texte et que par ailleurs, sur ces sujets, nous avons déjà débattu et délibéré, notamment sur des textes comme la loi sur l'école de la confiance, en écartant toutes ces dispositions que l'on jugeait plutôt vexatoires et pas du tout utiles.
Tout de même, Sacha Houlier, la question du port du voile pour les fillettes, c'est quelque chose qui renvoie à la problématique du séparatisme.
Sauf à considérer que le séparatisme, c'est la pratique religieuse. Moi, je ne soutiendrai pas le fait qu'on puisse voiler les petites filles. N'empêche que, sur ce sujet, le séparatisme, c'est d'abord faire pression sur un service public, c'est retirer ses enfants de l'école pour notamment leur inculquer en dehors des règles, parce qu'il y a des gens qui le font dans les règles, certaines disciplines, c'est faire pression dans des lieux de culte, c'est administrer des associations aux fins de prêcher une parole qui est celle de la haine, c'est en tout cas ou encore publier des propos sur les réseaux sociaux qui tombent sous le coup de la loi et sur lesquels nous renforçons les sanctions ou nous créons de nouvelles infractions. Et ça, c'est autrement plus important ou plus essentiel qu'un débat qui, à mon avis, ne peut être que parcellaire ou accessoire sur le voile des jeunes enfants.
Vous craignez que ce type d'amendement, finalement, ne stigmatise les musulmans?
D'abord, ce n'est pas le but du texte de stigmatiser les musulmans, c'est de les protéger, des ingérences dans leur culte, comme on protège par exemple aussi les ingérences dans le culte protestant pour ceux qui se radicalisent, notamment par des églises de la scientologie ou ce genre de pratiques sectaires. Donc le texte, il a d'abord pour but de protéger nos concitoyens. Et donc pointer du doigt une religion pour quelques personnes qui, pour le coup, n'auraient pas des comportements qui soient acceptables, eh bien je pense que c'était pas une bonne idée et que, comme en plus, ça n'était sans rapport avec le texte directement, eh bien, ce débat aura pas lieu. rappelle quand même, peut-être un détail, que des collègues ont déposé des amendements sur le port de signes distinctifs pour les accompagnateurs, enfin, pour les collaborateurs occasionnels du service public. Si je traduis, c'est les accompagnateurs de sortie scolaire. Donc ce débat sur le voile, qui est cher à beaucoup, manifestement, nous l'aurons et nous l'aurons très pacifiquement.
Tout de même, Sacha Houlier, les conséquences du protestantisme radical que vous évoquiez ne sont pas les mêmes que celles de l'islamisme radical. Il n'y a pas de terrorisme protestant aujourd'hui.
Non, il n'y en a pas. Et par ailleurs, je ne crois pas que le terrorisme islamiste ait forcément de lien direct avec le port du voile des enfants.
Malgré la question des amendements, est-ce que vous avez bon espoir de rallier une très grande majorité sur le texte, au-delà de votre propre majorité à l'Assemblée ?
Ça, c'est le vote et les travaux qui le diront, mais de ce que je lis dans plusieurs groupes politiques, c'est qu'une partie du groupe des Républicains qui sont tout autant divisés, voire sinon plus, que des groupes de la majorité sur cette question, eh bien, voteront, que des groupes, ou en tout cas des membres du Parti Socialiste, se sont dit favorables à ce texte, et jusque dans les rangs du Parti Communiste, j'ai entendu des collègues dire qu'il était tout à fait nécessaire. Donc, on peut nourrir l'espoir que ce texte soit adopté ou soutenu par des collègues de différents bords, parce que il s'agit encore une fois de questions d'ingérence dans le service public, de questions d'enseignement et de lutte contre la dérive qui peut se voir soustraire les enfants de l'école ou de haine en ligne. Donc, c'est des questions sur lesquelles on doit être capable aujourd'hui de se retrouver. Vous savez, moi, sur cette question, j'ai pas toujours épargné les ministres qui sont en charge et pour autant, j'arrive à être tout à fait en phase avec le ministre de l'Intérieur. Donc, ça doit pouvoir rassembler beaucoup de gens.
Merci Sacha Houlier, député LREM de la Vienne. Merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Par ailleurs, le Conseil français du culte musulman a adopté aujourd'hui une charte des principes de l'islam de France. Le texte rejette l'islam politique et les ingérences étrangères. Emmanuel Macron salue, je cite, un engagement net, clair et précis en faveur de la République. A noter toutefois que 3 des 9 fédérations du CFCM n'ont pas signé cette charte. Alexei Navalny va rester en prison pour 30 jours au moins. Arrêté hier soir à Moscou, dès son retour en Russie, le principal opposant à Vladimir Poutine a été condamné aujourd'hui par un tribunal moscovite. On lui reproche de ne pas avoir respecté les règles d'une condamnation avec sursis en 2014. Alexei Navalny vient de passer 5 mois en convalescence en Allemagne après avoir été victime d'une tentative d'empoisonnement qu'il impute au service secret russe. Renvoyé en détention, il appelle tous les Russes à manifester contre le pouvoir samedi prochain. Claude Bruyot nous appelle de Moscou.
Le signal de la fermeté du pouvoir à l'encontre de son opposant numéro un est bien là. Plutôt que de laisser, par exemple, Alexei Navalny sous le régime de l'assignation à résidence en attendant son procès, la juge qui officiait aujourd'hui a décidé de le maintenir en détention. C'est évidemment une façon d'essayer de contrôler l'opposant numéro un, Vladimir Poutine, en limitant sa communication et son influence à l'extérieur. Mais Alexei Navalny se sert aussi de cette nouvelle affaire pour s'imposer dans le calendrier politique qui va jusqu'aux législatives de septembre. Et il dit ce soir à ses soutiens sur les réseaux sociaux « N'ayez pas peur, c'est le pouvoir qui a peur de nous. Descendez dans la rue pour résister, ne le faites pas pour moi, faites-le pour vous, pour votre avenir. » Il est à craindre toutefois que la capacité de mobilisation d'Alexei Navalny ne se heurte d'abord à l'intransigeance de Vladimir Poutine et des forces de sécurité, et ensuite au contexte lié à la crise sanitaire actuelle. Il reste enfin une inconnue de taille, jusqu'où les Occidentaux, démocrates américains en tête, vont-ils vraiment pousser pour tenter d'obtenir la libération d'Alexei Navalny ?
Claude Debruyot, notre correspondant en Russie. Nous sommes au bord d'un échec moral catastrophique. Déclaration aujourd'hui du patron de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, à propos de la pandémie. L'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus fustige l'attitude des pays riches qu'il accuse d'acheter l'essentiel des vaccins disponibles. On écoute le directeur général de l'OMS.
More than 39 million doses of vaccine have now been administered.
Plus de 39 millions de doses de vaccin ont été administrées dans au moins 49 pays riches. Il y a un pays pauvre qui en a reçu 25. Pas 25 millions, pas 25 000, non, juste 25 doses. Il y a des pays et des entreprises qui parlent de garantir un accès équitable au vaccin. Pourtant, ces mêmes pays et ces mêmes entreprises continuent de passer des accords bilatéraux. Ce faisant, ils contournent le dispositif COVAX de l'OMS. Ils font monter les prix des vaccins et ils essaient de passer devant tous les autres. C'est mal.
Voilà la déclaration du patron de l'OMS, Tedros Ghebreyesus. On termine ce journal avec le temps demain. Pluvieux au nord, ensoleillé au sud. Les pluies seront faibles à l'ouest avant de se décaler vers l'est. Les températures minimales seront comprises entre moins 3 et 10 degrés selon les régions. L'après-midi, le thermomètre remonte de 4 à 17 degrés du nord-est au piémont pyrénéen. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.